Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Dieu veut bénir notre pays. Lorsque Dieu a choisi certains hommes dans la Bible, c'était bien dans l'intention de bénir leur pays. Quand vous lisez dans le livre des Juges, au chapitre 15-16, quand Dieu a choisi Manoach et sa femme pour enfanter un enfant, c'était bien pour bénir Israël. Et cet enfant porterait le nom de... Non, Samson. Et Samson, ça veut dire quoi? Samson, ça veut dire petit soleil. Dieu voulait que le ministère de Samson, eh bien, illumine l'Israël. Et il y a eu beaucoup de nuages, vous le savez, entre Dieu et Samson. Dans le chapitre 16, il s'est passé cette affaire terrible. À partir du verset 15, cette femme, elle a harcelé Samson jusqu'à ce qu'il craque. Et on va lire dans le chapitre des Juges, qu'est-ce qui s'est passé? Juges, chapitre 16, verset 15. Vous savez, l'ennemi, il est patient. Croyez-moi, l'ennemi, il est patient pour faire son œuvre dans nos cœurs, si nous ne veillons pas. Juges, chapitre 16, verset 15. Delila lui dit, « Comment peux-tu dire « je t'aime » puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les sept tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux et ils le firent descendre à Gaza et ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Amen. Le grand juge d'Israël, l'homme qui avait reçu, le seul homme qui ait reçu une force extraordinaire, surnaturelle, c'est quand même quelqu'un qui a reçu la force. Il a reçu la force, bien sûr, je pense à Salomon. Salomon, qu'est-ce qu'il avait reçu, lui? Est-ce qu'il en a été digne? Non. Et vous pouvez regarder, tous les hommes, quel que soit ce qu'ils aient reçu, n'ont pas été dignes. Mais quand même, cet homme n'a pas veillé, et le résultat, celui qui aurait dû être un soleil en Israël, un petit soleil en Israël, eh bien, on le voit comme une bête de somme en train de tourner la meule dans la prison. Parce que la meule, c'était les animaux qui étaient chargés de tourner la meule pour broyer le grain. Voyez jusqu'où l'ennemi peut réduire un homme. Samson, il n'a pas veillé. Vous avez vu ce qu'il est dit? Il lui ouvre, au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur. Voilà, il aurait mieux fait de l'ouvrir au Seigneur son cœur. On a tous des problèmes. On a besoin d'ouvrir son cœur. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, n'ouvrez jamais votre cœur à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Ouvrez-le au Seigneur, votre cœur. On a besoin, à trois reprises, il m'a parlé de cette affaire. Il a ouvert son cœur. Il aurait dû jamais se confier à une femme qui était une ennemie d'Israël. Et voilà. Mais lui, il était là, attaché à cette femme. Et vous avez vu comment ça a terminé. Le moment où on lui a coupé les cheveux, qu'est-ce qui s'est passé la suite? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. Vous avez vu ce qu'on a pu faire à cet homme? Une fois qu'on lui a coupé les cheveux, eh bien, on lui a crevé les yeux. Je peux vous dire qu'on n'aurait pas pu le faire avant. Ce qui nous prouve que le fait de ne pas être consacré à Dieu fera que l'ennemi finira par nous aveugler. La volonté de l'ennemi, c'est de nous aveugler. C'est que l'on soit recroquevillé sur les choses de la terre. Regardez Samuel, dimanche, j'en ai parlé. Le peu de temps où il a détourné son regard de Dieu pour le tourner sur Saül, eh bien, il s'est mis à pleurer. La volonté du diable, c'est de nous crever la vue. Moi, il y a un texte, j'en ai déjà parlé il y a quelques années, c'est dans le premier livre de Samuel. il y a un texte qui m'a beaucoup frappé, mais vraiment, vraiment frappé, un texte par lequel Dieu m'a beaucoup interpellé, dans 1 Samuel, c'était au début de la royauté de, justement, de Saül. Saül allait bien, c'est l'époque, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est quand même une époque où ça allait bien. Dans 1 Samuel, au chapitre 11, on voit quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cette histoire, mais moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé. Regardez avec moi, 1 Samuel chapitre 11. Il nous est parlé d'un certain ammonite qui s'appelait Nakash. Alors en hébreu, vous allez vite comprendre ce que ça veut dire Nakash, ça veut dire le serpent. Vous voyez à qui on a affaire. 1 Samuel chapitre 11, verset 1er. Nakash, l'ammonite, vint assiéger Yabès en Galaad. Tous les habitants de Yabès dirent à Nakash, « Traite alliance avec nous et nous te servirons. » Vous voyez un petit peu le courage. Hein. Mais Nakash, l'ammonite, leur répondit, « Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Yabès lui dirent, « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël et s'il n'y a personne qui nous secoure, nous nous rendrons à toi. » Bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Saül a pris l'affaire en main et il les a défendus. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils étaient très prêts à accepter que leur ennemi leur crève l'œil droit pour ne pas avoir de problème avec eux. Mes frères et sœurs, c'est exactement ce que le diable fait. Il essaie de nous faire vivre un compromis avec lui pour que nous n'ayons plus de vision, car l'œil droit, c'est l'œil de la vision. Et un chrétien a besoin d'avoir la vision des choses éternelles. On parlait tout à l'heure d'espérance. Est-ce que vous avez de l'espérance ? Si vous n'avez pas d'espérance, il y a fort à parier que l'ennemi a réussi à vous crever l'œil droit. Heureusement que ça peut être provisoire, que ce n'est pas définitif. Mais mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est que nos yeux soient ouverts. C'est d'ailleurs une des prières de l'apôtre Paul qui, lorsqu'il est en prison, prie, « Seigneur, mais illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. » Il y a une chose qui est certaine, nous voulons une église victorieuse, nous voulons vraiment, vraiment vivre ce que nous avons chanté, « Seigneur, guéris mon pays. » Vous croyez que notre pays a besoin de guérison ? Moi, je pense que l'église, d'abord, a besoin de guérison pour pouvoir amener la guérison sur les autres. Et lorsque l'apôtre Paul est en prison, il ne prie pas pour désespérer. « Seigneur, j'en ai marre, je veux sortir de prison. Priez pour moi. » Il n'a pas écrit aux Éphésiens pour les supplier qu'ils sortent de prison. Il écrit aux Éphésiens pour que les Éphésiens aient les yeux ouverts. Et quand on lit l'Apocalypse, l'église à Éphèse, il y a eu quand même... En quelques années, pas mal de grabuge qui s'est passé dans cette église. Ils ont basculé dans les œuvres. Les œuvres, c'est bien. Parce que Dieu, c'est un compliment, un reproche. Quand Dieu dit à cette église, je connais tes œuvres plus nombreuses que les premières. Tiens donc, c'est un compliment ou c'est un reproche ? Je connais tes œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, je pense... que ça peut être un défaut de basculer dans les œuvres. Et ça peut nous tranquilliser, mais je crois que la chose que Dieu demande en premier, c'est qu'on l'aime de tout notre cœur et que nos yeux soient éclairés. Est-ce que ça vous arrive de dire, Seigneur, mais ouvre mes yeux. Vous avez vu Samson ? Vous avez vu Samson, il pensait qu'il s'en sortirait. Vous savez, il y a les gens, ils jouent avec le péché, ils s'imaginent que ça va, que c'est pas grave, mais moi je fais ça, c'est pas grave. Écoutez-moi. À un moment donné, le péché, la Bible dit que le péché nous atteindra. Que quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans qu'il ne se brûle. Vous savez, on ne joue pas avec le péché. Le péché, ça nous détruira toujours. Le péché, ça nous éloignera toujours de Dieu. Samson pensait qu'il s'en sortirait comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors moi j'ai entendu des gens qui me disent « Oh mais monsieur Gohan, nous ça risque pas de nous arriver, le Saint-Esprit, il ne peut pas se retirer de nous. » Moi j'ai entendu ça. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous, Jésus a dit « Il n'éteint pas le lumignon qui fume, il ne brise pas le roseau cassé. » Moi je trouve que c'est très très hasardeux de parler comme ça. Parce que je ne sais pas si les gens réalisent la bêtise de leurs propos. Moi, je pense qu'on peut attrister le Saint-Esprit de telle sorte qu'on sera insensible, qu'on perdra la conscience, qu'on perdra la foi et qu'on en finira par perdre le salut. Ce qui est arrivé à Samson, ne croyons pas que ça peut ne pas nous arriver. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il nous faut veiller. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Moi, quand je lis l'histoire de cet homme qui aurait dû être un héros, et même si dans le Nouveau Testament, on voit l'apôtre qui cite les héros de la foi, et le temps manquerait pour parler de Barak, de Samson, de Jephthé. Tiens donc, pourquoi Dieu parle-t-il de Samson comme un héros? Parce qu'il s'est repenti. Il s'est repenti, il s'en est bien tiré, parce qu'il s'est ressaisi quand il lui parlait que les cheveux recommençaient à croître. C'est l'image de sa reconnexion avec Dieu, etc., etc. Alors, il a bien terminé, mais ça aurait pu terminer très, 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 très mal pour lui. Mes frères et sœurs, s'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est que nous prions, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel. C'est David qui dit, mais ouvre mes yeux, psaume 119, verset 18, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Dans le livre du Deutéronome, ne le cherchez pas, au chapitre 28, il est dit, si tu n'obéis pas, tu seras frappé d'aveuglement. Alors qu'est-ce que c'est qui peut nous aveugler? Vous voyez, Samson, il a été aveuglé par cette femme. Samson avait un problème avec les femmes. Et voilà. Il aurait dû veiller. Il n'a pas écouté ses parents, il n'a pas écouté les amis. Il faut faire attention à ce qui peut nous provoquer un problème. Est-ce que vous savez ce qui peut être votre chute? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on le sait ce qui peut être une... Moi, je pense qu'on doit savoir. Il y a des choses sur lesquelles on a peut-être été fragile. Et je crois qu'il faut être intelligent, mes frères. Et il faut savoir veiller. Il y a des choses qui peuvent nous aveugler. On va lire ce soir juste quelques exemples de situations où on peut être aveuglé. C'est terrible. Dans 2 Pierre, il nous est demandé de faire des efforts. Pourquoi? Parce que la spiritualité, ça marche avec les efforts. Ne pensons pas que nous serons spirituels si nous ne faisons pas d'efforts. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, l'apôtre Pierre explique l'importance que la grâce et la paix nous soient continuellement communiquées et même multipliées. Vous avez la grâce de Dieu? Vous avez la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez que cette grâce diminue ou que cette grâce soit multipliée? Moi, je veux qu'elle soit multipliée, bien entendu. Vous allez me dire, mais quelle question. Mais quand on voit, par contre, le mépris de la parole, je peux vous dire que certaines personnes ne vont pas faire en augmentant. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Alors, il nous est parlé de sa puissance, de la participation aux promesses. Et au verset 5, « À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Je pense que l'apôtre aurait pu continuer à mettre ensemble des vertus. « Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Voilà comment ça commence. Lorsqu'on ne fait pas d'efforts spirituels, eh bien, on en oublie certaines choses. L'autre jour, c'était en Polynésie, je prêchais sur le psaume 106, justement, quand on voit en crescendo comment petit à petit on peut arriver à être rebelle. Ils furent rebelles. Et quand vous regardez le début du psaume, ils ont commencé à oublier de remercier Dieu. Vous, c'est pas grand-chose. Est-ce que vous remerciez Dieu pour tous ses bienfaits? Est-ce que vous remerciez Dieu lorsque vous prenez un repas? Vous me dites, oh, pas la peine de rendre... Moi, quelqu'un me l'a dit il n'y a pas longtemps. Bon, c'est pas la peine de rendre grâce si on oublie, c'est pas grave. Moi, je vais vous dire, quand je lis dans la Bible ceux qui ont commencé à oublier et comment ça s'est terminé, moi, je peux vous dire qu'il vaut mieux être vigilant et savoir remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Vous voyez, ils ont mis en oubli. Vous savez, dans certaines églises, on prend la Sainte Cène une fois par mois. Moi, je pense que c'est bien de prendre la Sainte Cène tous les dimanches et de le faire consciencieusement afin de ne pas oublier la purification de nos péchés, de ne pas oublier le prix que Jésus a payé. Et voyez, que pour Comment les gens sont aveugles? Quand on voit Samson qui est là en train de tourner dans un grenier, en train de tourner la meule. Non mais franchement, en arriver là, eh bien oui, combien de frères ce soir devraient être ici dans la maison du Seigneur, en train de prier, en train de louer, et sont en train de tourner en rond, excusez-moi l'expression, en train de tourner en rond peut-être devant la télé, en train de regarder des âneries, ils sont aveugles. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de s'informer, mais mes frères et sœurs, quand on commence à ne pas faire certains efforts, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre, c'est la Bible, eh bien on finit par être aveugle. Vous avez vu le verset, hein? Celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde et que nos yeux soient ouverts sur son œuvre. Oui, moi je crois que Dieu peut guérir le pays. Moi je me suis régalé de chanter cette prière. C'est une prière. Seigneur, guéris le pays. Est-ce que Dieu peut guérir notre pays? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Dieu n'a aucun problème avec sa puissance. Dieu peut convaincre de pécher n'importe quel pécheur. Dieu peut changer une vallée d'ossements desséchés à une armée nombreuse. Ça ne pose pas de problème. Je l'ai souvent dit, le problème de Dieu, ce n'est pas le pécheur. Le problème de Dieu, c'est qu'il trouve une église où les chrétiens sont éclairés, où leurs yeux sont illuminés, où les efforts sont faits pour ne pas être aveugles et pour ne pas mettre en oubli. N'oubliez jamais toutes les grâces que Dieu vous a faites. Tout à l'heure, on était en train de prier là, avec les pasteurs dans le bureau, et je me disais, mais c'est une grâce de pouvoir prier. C'est une grâce. Les gens qui vont mourir là, de 9h à 10h, vous ne croyez pas que certains donneraient beaucoup pour avoir 30 secondes pour revenir prier sur la terre? Sérieusement, vous ne croyez pas que parmi tous ceux qui sont en enfer, il n'y en a pas beaucoup qui diraient, si on pouvait avoir 20 secondes pour revenir sur la terre et dire tout juste, Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour notre péché. Vous croyez qu'ils le feraient? Est-ce que vous pensez? Ben oui, c'est une grâce de pouvoir prier. Il y a des gens qui oublient la prière, c'est une corvée. Venir à la réunion de prière, bon, j'ai pas le temps, je suis crevé, etc. Ils commencent à oublier. Prier, c'est une grâce. Venir dans la maison de prière, c'est une bénédiction. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je comprenne les merveilles de ta loi. C'est souvent que Jésus a dit, mais vous avez des yeux et vous ne voyez point. Il n'a pas dit plusieurs fois le Seigneur? Si, il a dit pour que nous comprenions bien combien nous pouvons ne pas voir certaines choses alors qu'elles sont là, sous nos yeux. L'aveuglement, le témoignage de Samson, voyez, franchement, n'ouvrez pas votre cœur à quelqu'un du monde. Moi, j'ai déjà entendu des chrétiens qui me disent, ah, vous savez, monsieur Gou, vous m'avez dit ça, mais j'ai demandé conseil, moi, ça m'a fait rire sur le coup, j'ai demandé conseil à mon mécanicien, lui, il ne m'a pas dit la même chose. Mais il est chrétien, votre mécanicien? Non, non, mais je lui ai demandé si c'était bien que j'aille à l'église tous les dimanches. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas la peine. Ah, je dis, vous demandez conseil à votre mécanicien? N'importe quoi. Mais c'est pour vous montrer combien les gens sont aveugles. Franchement, vous iriez demander conseil à votre mécanicien pour un problème de santé? Ah, j'ai mal au cœur, mais comme vous réparez les moteurs, là, vous pourriez peut-être me donner un conseil? Changer d'huile, vous voyez? Mais vous iriez vous demander un conseil à un mécanicien pour votre santé physique? N'importe quoi. Quand vous voyez qu'il y a des chrétiens, qui vont demander conseil à des impies pour leur marche spirituelle, laissez-moi vous dire qu'il y a longtemps qu'ils sont aveuglés. Cette personne-là, il y a longtemps qu'elle a abandonné le Seigneur, croyez-moi. Ce sont des choses sérieuses, mes frères et sœurs. Un autre exemple, qu'est-ce que c'est qui peut nous rendre aveugles? Vous n'avez pas été étonné de voir des frères, des sœurs qui sont redevenus aveugles, amers? Vous n'en avez pas connu? Oui ou non? C'est quelque chose qui, moi, que au début, vous savez, on est naïf quand les premières semaines, les premiers mois de la vie avec Dieu, on pense pas que ce soit possible que quelqu'un abandonne Dieu. Quand vous découvrez la grâce de Dieu, le pardon, la joie du salut, la grâce, la paix, vous vous imaginez pas que quelqu'un puisse pouvoir abandonner ces choses. Et pourtant, ça arrive. Ça arrive pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne veillent pas. Dans 1 Jean, au chapitre 3, il nous est parlé de frères qui sont dans les ténèbres. Ça paraît bizarre, ça. De frères qui sont dans les ténèbres. Pourquoi? Alors, pourquoi un chrétien peut-il retomber dans les ténèbres? Eh bien, c'est écrit. 1 Jean, chapitre 2, verset 9. Ce sont des choses sérieuses. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être aveugle quand Jésus va revenir me chercher, vous voyez. 1 Jean chapitre 2 verset 9, celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Ça ne peut pas être plus clair. Est-ce que vous aimez votre frère? Celui qui est à côté de vous, vous l'aimez? Regardez-le, regardez-le. Celui qui est en face de vous, vous l'aimez? Est-ce que c'est important d'aimer son frère? Eh bien, c'est un choix. C'est un choix d'aimer. C'est un choix. Tu aimeras ton prochain. À partir du moment où un commandement nous est donné, tu aimeras ton prochain. C'est clair, je peux le faire. Je peux aimer mon frère, je peux aimer ma soeur, je peux aimer mes amis, je peux même aimer mes ennemis. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument comprendre dès le départ. Si Dieu nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Alors, aimer ses ennemis, il est certain qu'on n'aura pas la même relation avec ses amis et ses ennemis. Est-ce que Jésus avait la même relation avec Jean qu'avec Judas? Non. Il est dit de Jean que c'était le disciple que Jésus aimait. Donc, il y avait une différence d'affinité entre la relation que Jésus avait avec Jean et la relation que Jésus avait avec Judas. Mais une chose est certaine, on n'a pas la même relation avec tout le monde, mais on peut aimer ses ennemis. Comment? Seigneur, je te prie pour eux. Je te prie, s'il te plaît, de les aider. Je te prie de les sauver. C'est ça, aimer ses ennemis. On ne va pas leur sauter au cou, il y aurait un problème. Vous voyez ce que je... Mais quand on prie pour quelqu'un, c'est la preuve qu'on l'aime. Seigneur, je te prie pour ce pays. Moi, je prie pour le gouvernement. Je vous assure que le gouvernement actuel, ce n'est pas le gouvernement qui me plaît le plus. Hein. Mais ça ne fait rien. Je prie parce que la Bible dit de prier pour les autorités. Vous avez vu un petit peu la teneur morale des membres du gouvernement? Ça fait peur, ça fait peur. Mais on peut prier pour eux. C'est ça, aimer son pays. Seigneur, je te prie pour le gouvernement. Je te prie pour les gens qui me critiquent. Seigneur, s'il te plaît, amène-les au salut. Vous savez, si Saul de Tarse s'est un jour retrouvé dans l'état où il était, moi je crois que les chrétiens devaient prier pour les persécuteurs. Je le crois vraiment. Que les chrétiens devaient prier. Qui pouvait aller parler à Saul de Tarse? Qui pouvait aller parler à cet homme? Mais Dieu, il n'a pas besoin de nous parfois, le Seigneur, pour parler à quelqu'un. Et ça, ça doit nous rassurer. Une chose est certaine, un chrétien qui commence à ne pas aimer, à maudire, à critiquer, il y a de fortes chances, s'il ne se ressaisit pas, qu'il ne demande pas pardon, il va se retrouver dans les ténèbres. Et si vous parlez avec quelqu'un qui dit « Oh, moi, j'aime pas ce frère, moi, j'aime pas cette sœur, moi, j'aime pas cette église », laissez-moi vous dire qu'il n'est pas en train d'ouvrir ses yeux. Il est en train de devenir aveugle. Vous l'avez lu avec moi, on le relit quand même. Après ce que je viens de vous dire, c'est bien de relire ces choses. Verset 9, « Celui qui prétend, parce qu'on peut dire, oui, je suis dans la lumière, etc., etc., ça c'est sûr. Mais celui qui dit, donc, qui prétend être dans la lumière et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Amen. Et oui, on peut dire amen parce que c'est la parole de Dieu. Oui, je pense qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « Ah ben moi, j'aime plus facilement, on m'a appris à aimer quand j'étais petit, Saul de Tarse respirait le meurtre. » Je veux dire, les centeniers qui se sont convertis étaient des hommes qui avaient appris la haine de l'ennemi, et pourtant c'est des gens qui ont décidé d'aimer. Ce soir, quelle est votre position par rapport à cette affaire? Est-ce que vous dites « Moi, je choisis d'aimer les gens ». Comme ils sont, ils se convertissent, c'est bien, ils ne se convertissent pas, ça ne fait rien, je les aime quand même. Parce qu'on a vite fait d'aimer les gens par intérêt. N'aimons pas les gens par intérêt, tu aimeras ton prochain, point. Il n'est pas dit tu aimeras celui-ci parce qu'il est gentil, tu aimeras celui-là parce qu'il vient à l'église, tu aimeras ton prochain. Mes frères et sœurs, nous ne nous faisons pas piéger. Parce qu'à la fin, beaucoup de chrétiens auront abandonné le Seigneur. Et c'est écrit. C'est écrit, ce sont des prophéties, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense, pour la simple et unique raison qu'ils n'auront pas veillé. Parce que la vie est faite d'épreuves, de conflits. Est-ce que vous avez déjà vu des conflits avec quelqu'un? Est-ce que vous avez eu des conflits déjà? Qui n'a jamais eu de conflit? Mais quand on a un conflit, mais ça ne fait rien. Merci Seigneur, j'accepte, je pardonne, je veux mettre vraiment ma vie entre tes mains. Celui qui n'aime pas, celui qui prétend être dans la lumière et qui n'aime pas, et dans les ténèbres. Et que Dieu nous donne la sagesse d'aider les gens lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un. Moi, dernièrement, je discutais avec une chrétienne qui me disait « Ah, moi, j'ai de la haine. » Et sur le moment, j'ai pas su quoi dire. Parce que j'ai pas voulu. Vous savez, des fois, on sait pas. Enfin, je sais pas vous. Des fois, on sait pas comment ça vous arrive. On sait pas. Et là, je prie pour aller voir cette personne et pour lui parler vraiment avec amour. Dire « Mais si vous avez de la haine, vous êtes très, 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 très mal parti avec Dieu. » Parce que quand on a de la haine, eh bien, on est dans les ténèbres. Et voilà pourquoi certaines personnes se sont fait avoir. Samson s'est fait avoir. Il y en a plein qui se sont fait avoir. Des masses, un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Ça ne devait pas être rien de travailler avec l'apôtre Paul, non? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était bien de travailler avec Jésus? Moi, je trouve que ça devait être bien. Et pourtant, Judas, il s'est fait manger par l'amour de l'argent. Et pourtant, il travaillait qu'avec Jésus. Vous voyez comme quoi on peut tous se faire piéger, quelle que soit la personne spirituelle avec laquelle on peut se trouver. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous voyez, le manque d'amour peut nous aveugler. Dans l'Apocalypse, il y a plein d'exemples. Dans l'Apocalypse, j'ai souvent parlé de ce texte, l'église de Laodicée. L'église de Laodicée est la dernière église citée dans le livre de l'Apocalypse. Prophétiquement, historiquement, elle représente l'église de la fin des temps. C'est prouvé par tous les théologiens qui ont écrit sur ce bouquin. Le livre de l'Apocalypse, en particulier l'église de Laodicée, représente les chrétiens de la fin des temps. Et c'est une église qui, elle aussi, s'est fait piéger par le service. Alors, qu'est-ce que Dieu dit ? Apocalypse 3, verset 15. « Je connais tes œuvres. » Vous savez, Dieu sait tout ce qu'on fait. Il sait tout ce qu'on fait, le Seigneur. Mais les œuvres, c'est une chose, et la communion avec Dieu, c'en est une autre. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre. Qu'est-ce qui est écrit après? Aveugle et nu. Une église dans laquelle... Dans l'église du roi des vainqueurs, moi je suis rassuré quand je vois que dans toutes les églises possibles et inimaginables, le Seigneur Jésus dit à celui qui vaincra. Dans n'importe quelle église, si quelqu'un obéit, il sera un vainqueur. Même s'il y avait 100 chrétiens qui sont dans le péché, et s'il n'y en a qu'un qui obéit, celui qui obéit, il pourra être dans la victoire. Mais c'est une église où Jésus dit, mais voilà, tu es aveugle, tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas? Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que la tiédeur a envahi le cœur. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde d'être tiède. On peut ce soir dire, Seigneur, donne-moi d'être bouillant pour toi. Donne-moi vraiment d'être bouillant. Ce feu du premier amour, ce zèle, cette ferveur, je te le demande. Est-ce que ce sont des prières que Dieu va pouvoir exaucer, ça? Mais oui, moi je suis sûr que si le matin on fait son culte, il y a des gens qui disent « Oh, moi je fais plus le culte, je suis crevé », ben c'est sûr, ils restent sur Facebook jusqu'à minuit, c'est sûr. Comment voulez-vous qu'ils se lèvent le matin une heure plus tôt s'ils restent sur les réseaux sociaux jusqu'à minuit, une heure du matin? Vous savez, ça fait 31 ans que je suis pasteur. Vous savez, des entretiens, j'en ai eu des milliers d'entretiens. Et je peux vous dire, mais ça c'est des lois. C'est comme le gars qui conduit avec un gramme d'alcool dans le sang. Est-ce qu'on peut dire « tu risques d'avoir un accident » Mais bien sûr, il n'y a pas besoin d'être prophète. Le gars, il y a de fortes chances. Et les jeunes qui restent jusqu'à minuit, une heure du matin, devant leur écran de télé ou devant Facebook, laissez-moi vous dire qu'un jour, ils se feront piéger. Parce qu'ils ne pourront pas se lever pour veiller. C'est quoi le plus important? La communion avec Facebook ou la communion avec Dieu? C'est à vous de répondre. Mais vous devez savoir ce que vous aimez le plus. Si vous aimez plus Facebook que la communion avec Dieu, eh bien vous deviendrez tiède et vous serez aveugle. Et quand Jésus reviendra, beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts. Alors certains vont me traiter de légaliste, certains... Ça m'est égal, mais complètement. Ce que je sais, c'est que c'est la vérité. C'est qu'on ne peut pas aimer deux maîtres à la fois. Il faut choisir l'un ou l'autre. Et s'il y a un temps pour eux, certainement, se détendre, moi je pense qu'on peut, on peut. Moi j'y vais pas parce que j'ai autre chose à faire. Mais est-ce que c'est bien d'aller sur Facebook? Tiens, est-ce que c'est bien? Répondez. Il y en a bien qui doivent y aller. Est-ce que c'est bien? Alors, je vous pose une question. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a les 20 minutes, c'est bien? Est-ce qu'il y a les 3 heures, c'est bien? 3 heures, je ne pense pas que c'est bon. Hein. Il y a les 20 minutes, je ne pense pas que c'est malsain. Il ne faut pas non plus voir le mal partout. Je pense même que ça peut être intéressant. Mais si une activité, quelle qu'elle soit, si saine soit-elle, m'empêche d'avoir une communion avec Dieu, c'est un piège. Et ça, je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre ce soir. Je me souviens de ce jeune, c'était à l'église de Groyer. Il a pris le baptême, il s'est converti, il a pris le baptême. Et en octobre, il venait plus au culte. Et il dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, il me dit, moi, le dimanche, je vais à la chasse. Et j'ai appris ce jour-là qu'il aimait la chasse. J'ai dit, mais il n'y a pas un autre jour pour aller chasser ? Si, si, il y a le jeudi. Je me dis, eh bien, allez-y le jeudi. Alors ça, elle a travaillé pendant un moment. Puis je lui ai dit, mais si vous allez chasser le dimanche, c'est que la chasse est plus importante que le culte. Oh, monsieur Gros, vous exagérez, c'est du légalisme. Et puis, deux ou trois mois après, il a prié, il s'est ravisé, il a dit, c'est vrai, que quelque chose qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Il a très très bien réagi. Ce garçon, je l'ai vu dernièrement, ça fait 25 ans, il est toujours fidèle, il marche avec Dieu, il a réglé ce problème. Est-ce qu'il a bien fait de le régler ? Premièrement, il ne chasse plus, ça doit faire plaisir au perdreau et au faisant. Mais moi, je ne vois pas de mal, il n'y a pas de mal d'aller chasser le samedi, le jeudi matin. Bien sûr, s'il y a des gens qui sont contre la chasse. Mais franchement, il ne faut pas voir. Moi, je ne voyais pas le mal. Il y a été pendant quelques années le jeudi, mais il a réalisé que ce qui prenait la place de Dieu, eh bien, ça devenait une idole. Et franchement, si une activité telle que Facebook, je pense à ça, parce que moi c'est impressionnant le nombre de gens qui me disent « Ah, je vais sur Facebook, j'ai plein d'amis, 2000 amis. » Combien ? 2000 amis. Je ne sais pas comment ils font, mais moi, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Mais s'ils communiquent avec les 2000 amis, je ne sais pas comment ils vont faire pour communiquer avec le grand ami avec lequel ils devraient communiquer. Alors ça vous fait sourire, mais franchement, mes frères et sœurs, si on est tiède, le verdict, il est là. On ne sait pas qu'on est aveugle. Et si on ne se ressaisit pas, eh bien, on va finir par abandonner la maison du Seigneur. Moi, je pense qu'il y a des milliers de gens à Toulouse qui ont abandonné le Seigneur. Des milliers de gens. Parce que quand vous avez vos yeux fixés sur le Seigneur, quand vous regardez au Seigneur, laissez-moi vous dire que vous avez envie de tout sauf de l'abandonner. Que quelqu'un me prouve que s'il a les yeux fixés sur Dieu, il puisse penser un instant à l'abandonner, c'est pas possible. Si vos yeux sont fixés sur le Seigneur, vous avez envie de vous approcher de lui. Vous avez de l'espérance, vous avez de la paix. Et quand toutes ces choses commencent à se présenter là, vous n'avez plus la paix, vous avez un peu d'amertume. Tout ça, ce sont des voyants rouges qui s'allument. Et on devrait de suite se jeter à genoux et dire, même ce soir, peut-être que Dieu est en train de vous parler. Peut-être que ça fait 3 mois que vous n'avez pas fait votre culte le matin. Justement, parce que vous faites piéger jusqu'à 11h du soir ou à minuit par ces trucs. Mes frères et sœurs, que Dieu nous donne la grâce d'être sensible à ces choses. Parce que Ézéchiel parle des idoles qu'il y a dans le cœur. Il porte ces idoles dans le cœur. Mes frères et sœurs, lorsqu'on ne prend pas garde à ces choses, eh bien on devient aveugle. Je vais terminer avec ce texte dans Matthieu. Parce que dans Matthieu 23, le Seigneur là, il tape fort. Hein. Il tape fort sur des pasteurs justement. Vous avez remarqué comment le Seigneur a été sévère avec les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Pourquoi ? Est-ce qu'il a bien fait ? Est-ce que le Seigneur a été méchant, enfin dur avec les prostituées, etc. ? Non, il a été sévère avec les religieux. Quand vous lisez Matthieu chapitre 23, c'est impressionnant comment le Seigneur traite souvent les serviteurs d'aveugles, parce qu'ils ne disent pas ces choses. Regardez. Par exemple, Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui si on prêchait comme ça au pasteur ?« Malheur à vous, pasteur hypocrite. » Enfin, j'en sais un peu quelque chose. C'est sûr que les gens ne réagissent pas toujours bien. « Parce que vous fermez aux hommes, regardez bien, ça fait pitié. « Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Au verset 16, « Malheur à vous, conducteur aveugle. » Ah, ça commence. « Conducteur aveugle. Qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand ? Ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand ? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande, etc. Qu'est-ce que vous voyez? Des reproches sévères qui sont faits aux pasteurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait entrer les gens dans le royaume de Dieu. Et si on ne prêche pas la repentance, si on ne prêche pas la conversion, si on ne prêche pas l'obéissance, on est des aveugles. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que nous devons aimer qu'on nous reprenne. Est-ce que vous aimez être repris par la parole de Dieu? Ou est-ce que vous voulez des prédications qui vous caressent, comme on dit dans le sens du poil? Ou est-ce que vous préférez être repris si c'est nécessaire? Comment avez-vous réagi, certains jeunes, à ce que je vous ai dit sur Facebook? Est-ce que vous dites « oui, ils se mêlent de ceux qui ne le regardent pas » Ou est-ce que vous dites « mais Seigneur, c'est ce que j'avais besoin d'entendre ce soir. Je comprends pourquoi j'ai perdu ma ferveur. Je comprends pourquoi je n'ai plus ce zèle qui devrait être le mien. » Eh bien, parce que je me suis fait piéger. Moi, je ne pense pas que Jésus a dit ça aux pasteurs pour leur faire du mal. Je pense qu'il leur a dit ça pour les faire réagir. Il dit, mais si moi, par ma prédication, j'empêche les gens d'entrer dans le royaume de Dieu, ben bien sûr qu'il y a de quoi entendre malheur ou malheureux. Il y a de quoi s'attendre à ce que le malheur s'abatte sur nos églises si on n'amène pas les gens à la repentance, si on ne les fait pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut leur enseigner la vérité, non pas, oui, l'or du temple, c'est si ou... Écoutez, les gens, ils ont envie d'entendre la vérité. Vous avez envie d'entendre la vérité? Eh bien, consacrons-nous, purifions-nous. Si le Seigneur nous donne des conseils, comme à l'Odyssée, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Voilà ce qui fera qu'un chrétien ouvrira les yeux tout à nouveau. Je veux passer du temps de qualité dans la présence de Dieu. Ces 2 heures que je passe devant mon ordinateur, eh bien, je vais les passer devant le Seigneur. Et vous allez voir, et nous allons voir combien la grâce de Dieu sera notre partage, combien nous serons ouverts, nos yeux seront ouverts, combien peut-être demain, en allant au travail, nous allons voir peut-être dans le bus ou dans le métro, mais quelqu'un, nous allons le voir, quelqu'un qui a besoin d'un conseil, peut-être d'un évangile, peut-être d'une parole. Est-ce qu'on peut faire du bien par une parole? Ah ouais. Des fois, nous, on ne s'en rend pas compte. Je réfléchissais lorsque j'étais en Polynésie, parce qu'en Polynésie, je pense que les coqs sont fous. Ils chantent toute la nuit. Toute la nuit, ils chantent. Toute la nuit. Ah, c'est intéressant. Hein? Et je me suis dit, tu vas faire une prédication sur le jour où le coq a chanté. Vous savez, parce qu'il est dit dans la Bible que le coq a chanté. Oui ou non? Est-ce que le coq était utilisé par Dieu? Oui. Est-ce que le coq le savait? Non. Parce que le coq, il faisait ce qu'il sait faire. Mais mes frères et sœurs, vous allez me dire, mais oui, va, oui, nous amène. Mais vous inquiétez pas. Je vous amène simplement à quelque chose de simple. Un chrétien, Dieu peut l'utiliser s'il fait ce qu'il est appelé à faire. Et si nous sommes ouverts, si nos yeux sont ouverts, si notre cœur est rempli du Saint-Esprit, sans même nous en rendre compte, le Seigneur nous utilisera. C'est pour ça que je vous ferai une prédication sur le coq qui a chanté. Parce que ça tient debout, cette affaire. Hein? Et je vous encourage, mes frères et sœurs, à dire, mais Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je ne veux pas être comme Samson. Je ne veux pas être comme les habitants du temps de Yabès en Galaad, qui étaient prêts à accepter un compromis. Vous vous rendez compte? Mais il y a des chrétiens qui acceptent le compromis. Il y a des chrétiens. Le temps me manque. Mais laissez-moi vous dire qu'ils sont nombreux, les chrétiens, qui font un compromis avec le diable. Tout en étant chrétien. Mes frères et sœurs, ne faisons pas de compromis. Les habitants de Yabès ont eu le réflexe de demander de l'aide. Demandons de l'aide. Demandons de l'aide à des frères, à des sœurs. On ne peut pas demander aux gens de prier pour nous. On ne peut pas dire, mais priez pour moi. Je ne veux pas me corrompre. Je veux rester fidèle. Oui, j'ai un problème avec les réseaux sociaux. Priez pour moi. On peut demander que quelqu'un nous soutienne à la prière? Est-ce qu'on peut dire, mais priez pour moi, je suis découragé en ce moment. Priez pour moi, je me fais piéger par ceci, par cela. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur? Ben oui, il n'y a pas de honte. Mes frères et sœurs, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. On va prier, mes frères et sœurs. On va demander au Seigneur cette grâce de dire, moi je veux avoir les yeux ouverts. Quand Jésus reviendra, je veux avoir les yeux ouverts. Je veux les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est un commandement, fixer les yeux sur le Seigneur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Prions quelques instants, mes frères et sœurs. Nous le croyons, Seigneur, que ce que tu veux, c'est que nos yeux soient ouverts. Et nous voudrions vraiment, comme David, comme cet homme selon ton cœur, dire « Mais ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Il y a, nous le croyons, dans chacun de tes commandements, dans chacune de tes promesses, dans chacun de tes préceptes, il y a des merveilles à découvrir. Oui, Seigneur, nous voulons avoir les yeux ouverts. Nous voulons pas nous faire piéger comme Samson, malgré la force que tu lui avais communiquée. S'est fait piéger par cette femme qui l'a harcelé. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons ce soir de nous donner cette vue spirituelle. Oui, nous ne voulons pas être des aveugles. Nous voulons avoir une vue perçante comme ces aigles qui voient de loin leur proie. Nous voulons vraiment, Seigneur, voir de loin, voir toutes choses, voir les attaques de l'ennemi. Nous voulons voir ta grâce et ta bonté. Ce soir, nous voulons te prier pour que dans cette église, tous les chrétiens aient une vue spirituelle perçante. Notre Père, nous croyons, oui, que tu nous as donné des yeux pour voir. Tu nous as donné des oreilles pour entendre. Tu nous as donné un cœur pour être sensible aux choses de l'Éternel. Oh Seigneur, s'il te plaît, ce soir, oui, nous te prions afin que, comme nous l'avons chanté, oui, tu puisses au travers de ton peuple guérir le pays, que tu puisses au travers de nos vies être, nous amener à être ces sources de bénédiction. Oui, Seigneur, guéris ce pays au travers d'une église qui aura obtenu d'abord la guérison de son cœur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.